BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. Une heure H très éclectique aujourd'hui, puisqu'on parlera de Brad Pitt, vous savez, qui a été sacré aux Oscars. Je recevrai Stéphane Huard, il est le patron de Sony Pictures pour la France, c'est eux qui distribuent justement ce film. Donc on reviendra sur cette grande cérémonie. Je recevrai Frédéric Vidal, la ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Les chercheurs qui devraient voir leur salaire augmenter, ainsi que les enseignants. Est-ce que c'est suffisant ou pas? On verra ça avec elle. Et puis bien sûr, on fera le point sur le coronavirus. Est-ce qu'on aura bientôt un vaccin ou pas? Et puis dans un instant, on parlera du couple franco-allemand, un tout petit peu dans la turbulence. On en parlera avec le banquier Philippe Audot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis le lauréat du prix franco-allemand de l'économie. Mais tout de suite, bien sûr, place à Aurélie Planex. Toute l'actu, c'est avec vous, Aurélie. Bonjour.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. La réforme des retraites poursuit son marathon parlementaire. La commission spéciale avait encore 15 300 amendements examinés hier soir. Jeudi matin, les partenaires sociaux seront à nouveau reçu à Matignon pour parler emploi des seniors, minimum de pension ou encore pénibilité. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était ce matin votre invité Edwige, et pour lui, il est important de ne pas se précipiter.
Ce qu'il faut, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y ait le temps pour examiner tout le texte et l'examiner en profondeur. Ce qui serait insupportable, c'est qu'il y ait une forme d'accélération et qu'il n'y ait pas le temps de se pencher sur tout le texte. Et c'est suffisamment important, les retraites, pour pas qu'on en reste juste à quelques débats. Malheureusement, la commission ne peut pas aller au bout, mais maintenant, il faut que le Parlement examine tous les amendements.
Donc, il faut prendre son temps.
Oui, bah sur une réforme comme ça, qui est extrêmement...
Ça marche forcée.
Oui, mais la mise en œuvre, il faut bien le comprendre, pour la majorité des mesures, elle est en 2037. Il y a certaines en 2022, et tant mieux, sur le minimum de pension, par exemple. Mais ça nécessite du temps. C'est dans l'état du pays, c'est-à-dire de l'affrontement, de l'anxiété face à un changement de système des retraites, et on ne peut pas aller à la va-vite. Et donc là, il va falloir au Parlement prendre le temps, oui.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui était l'invité de Good Morning Business ce matin. Le quatrième trimestre n'aura été qu'un trou d'air pour l'économie française. La Banque de France anticipe un rebond de la croissance au premier trimestre, plus 0,3%. La Banque de France estime que l'industrie va retrouver son rythme de croisière ce mois-ci et elle a déjà constaté une accélération de l'activité dans les services et le bâtiment en janvier. La CDU va devoir se trouver un nouveau leader. Selon Reuters, Annegret Kramp-Karrenbauer ne sera pas candidate au poste de chancelière lors des élections de 2021. AKK était considérée comme la dauphine d'Angela Merkel, mais elle peine toujours à asseoir son autorité sur son parti. Covéa s'est trouvé une nouvelle cible dans le domaine de la réassurance. Après l'échec de sa tentative de rachat de Score, la maison mère de MAF et MMA annonce être entrée en négociation exclusive avec la holding financière de la famille Agnelli qui détient le réassureur Partner Re. L'opération pourrait atteindre les 9 milliards d'euros. Air France KLM enregistre une hausse de son trafic passager de 2,2% en janvier. La compagnie estime que l'impact du coronavirus a été limité le mois dernier. Air France KLM, qui a interrompu ses vols vers la Chine la semaine dernière, donnera une première estimation financière de l'impact sur les prochains mois lors de la présentation de ses résultats annuels la semaine prochaine. Et en Chine, l'épidémie provoque une envolée des prix alimentaires. L'inflation s'établit à 5,4% en janvier sur un an. C'est un plus haut depuis 2011. La déception de Netflix hier soir lors de la 92e cérémonie des Oscars, arrivé avec 24 nominations, il repart avec seulement 2 statuettes. L'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, remporté par Laura Dern pour Marriage Story, et celui du meilleur documentaire pour American Factory.
Et moi, j'aurais Brad Pitt.
Vraiment.
Voilà, Aurélie. Voilà,
en chair et en os.
J'aurais son distributeur. Bon, voilà.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà ça.
Merci, Edwige. On termine avec les marchés. Le CAC 40 est en léger repli, moins 0,2%, 6015 points. Un coup d'œil sur les devises. L'euro 1,0950, midi 4, Edwige.
Merci beaucoup. Dans un instant, on parle du couple franco-allemand, d'un banquier qui est franco-allemand. Philippe Audot est notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Philippe Audot, merci d'être avec nous. Vous êtes l'associé gérant du groupe Audot, Audot BHF, parce que vous avez, c'était il y a maintenant 2 ans, 3 ans, racheté une banque du Mittelstand, la banque du Mittelstand, qui est encore plus grosse que ne l'était Audot. Vous êtes vraiment une banque franco-allemande, c'est assez rare. Oui. En plus, on vous a donné l'autorisation, je dirais, de racheter cette banque du Mittelstand. Et puis, vous avez été justement, la semaine dernière, consacré... vous avez même reçu le prix franco-allemand de l'économie, des mains notamment de Bruno Le Maire, et ça sous l'égide de la Chambre franco-allemande du commerce et de l'industrie. Philippe Audot, donc vous avez vu l'actualité allemande extrêmement chargée, d'abord avec... alors, c'est pas un coup de tonnerre parce qu'on l'attendait, mais les conséquences sont importantes. La démission donc de AKK, qui devait prendre la succession d'Angela Merkel. Climat politique très difficile à cause de, d'une élection où les gens de l'AFD apportaient leur soutien. Donc on voit un climat politique très difficile et un climat économique compliqué avec les chiffres qu'on attend en fin de semaine, qui pourraient peut-être dire que l'Allemagne est en récession.
Oui. Alors, plusieurs choses. Annegret Kramp-Karrenbauer a officialisé le fait qu'elle ne cherchait plus à être chancelière. Mm-hmm. Elle va, je crois, d'après ce que j'ai compris, rester présidente du parti jusqu'à la fin de l'été, afin d'organiser des élections et un processus de nomination de son successeur. Alors, plusieurs points. Il est difficile d'être président d'un parti politique comme la CDU alors que la chancelière Angela Merkel est toujours au pouvoir.
Et c'est difficile. Elle n'a pas éclaté. Enfin, c'est clair. Non, on voit bien qu'à quelqu'un, elle n'a pas, voilà, pas percé, comme on dit dans notre jargon. Vous voyez.
Non, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Elle n'a pas percé.
Mais c'est, au-delà du commentaire strict de l'actualité, est-ce que le climat politique, pour vous qui êtes maintenant un banquier oui, important là-bas, est-ce que c'est inquiétant, parce qu'il y a une grande incertitude quand même en Allemagne.
Il y a une grande incertitude, comme partout.
Oui, mais restons en Allemagne.
Bon, il y a une incertitude sur plusieurs points. Qui va être le successeur d'Angela Merkel ? Question. Traditionnelle, à partir du moment où il y a un successeur à trouver. Incertitude liée à la diminution du poids de la CDU et des partis politiques traditionnels, SPD, CDU, et l'émergence de partis extrémistes, AFD, Linke. Malheureusement, c'est un phénomène qu'on voit partout, et c'est un phénomène qu'on voit d'abord en France.
Mais ça déstabilise pour le milieu des affaires. Les Allemands, non, ils aiment bien les choses assez carrées. Est-ce que vous le ressentez au niveau des affaires ?
Non. Je sais pas. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. C'est-à-dire que sur le plan politique, il n'y a pas d'impact. Donc, vous savez, c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais à partir du moment où il n'y a plus de décisions politiques majeures, tout le monde travaille dans son coin, et surtout, tout le monde mène ses entreprises, et ils sont confrontés aux difficultés mondiales comme les autres, mais on ne peut pas dire que ça pose un problème grave à l'Allemagne d'être dans une situation où aujourd'hui, la direction est menée plutôt par des techniciens sans réforme politique majeure.
Philippe Audot, donc on le disait, on attend fin de semaine les chiffres sur la croissance allemande. Oui. Récession par récession, là pour le coup, peut-être que ça a un impact direct avec le business et la santé des entreprises, puisque vous êtes la banque du Mittelstand, c'est-à-dire des ETI.
Oui, alors plusieurs choses. Tout d'abord, oui, l'Allemagne est à la limite de la récession. Elle est très forte dans le domaine industriel, elle est très forte dans le domaine de l'industrie automobile. L'industrie automobile est en train de se rénover. Et la Chine, on va y revenir évidemment. La Chine a un poids majeur et ce qui se passe aujourd'hui va avoir un impact sur l'industrie au sens large dans le monde entier et particulièrement sur l'Allemagne. Donc incontestablement, ce phénomène du coronavirus ne risque de faire qu'amplifier la difficulté de l'activité industrielle allemande.
Ouais. Comment est-ce que c'est, on gère un groupe allemand très différemment d'un groupe français ? Deux banques, parce que grosso modo, Audot, c'était aussi une banque familiale. Oui. Il veut dire qu'il était aussi une banque des petites et moyennes entreprises, la gestion privée. Là, vous êtes, on le disait, la banque des ETI, du Mittelstand. C'est très différent.
On pourrait parler des différences culturelles qui sont là, incontestablement, elles sont passionnantes. Il faut les connaître. Et une fois qu'on les connaît, qu'on les respecte, ça se passe très bien. En tout cas, pour travailler avec des Allemands, ce que je peux dire, c'est qu'il faut parler l'allemand. Ça, c'est incontestable.
Ah, donc, tout le monde s'est mis à l'allemand chez vous, chez
Odo. Oui. Moi, j'ai repris des cours, etc. Il faut aller en Allemagne, il faut aller les voir. Mm-hmm. Très différent de la France, puisque là, il faut parcourir des kilomètres. Ils sont tous partout. Ils sont pas du tout recentrés comme en France à Paris. Ils planifient tout. Ils organisent tout, ils sont pas à l'heure, ils sont en avance, ils arrivent toujours 10 minutes en avance, et c'est bien élevé. Comme ça, je pourrais parler de la dynamique des organigrammes qui n'a rien à voir avec la nôtre. Il y a un certain nombre de sujets qu'il faut connaître, mais il y a des différences franches.
Qu'est-ce que vous appelez la dynamique des organigrammes?
Bah oui, en Allemagne, c'est extrêmement important de connaître très précisément sa fonction et ce que font les autres. Et le processus de décision qui est écrit avec... on sait très bien qu'en France, il y a des organigrammes qui existent, mais le processus de décision, il faut connaître la dynamique interne de l'entreprise qui est souvent différente de ce qui a été écrit. Et d'ailleurs, dans certains nombres d'entreprises, comme les choses changent assez vite, il n'est pas toujours évident que l'organigramme en France soit à jour. Il y a juste un exemple.
Ouais, on y reviendra ensuite. La santé des entreprises. Est-ce que vous avez mieux compris pourquoi la santé des ETI allemandes est meilleure que la santé des ETI français? Surtout, il y en a beaucoup plus. Pourquoi? Où est la force de ce système?
La force de ce système, elle est liée à une... Ce sont les meilleurs industriels du monde. Il y a des aspects fiscaux, il y a des tas d'aspects, mais d'abord, ce sont les meilleurs industriels du monde. Et pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui planifient, ce sont des gens qui organisent, ce sont des gens qui ne laissent rien au hasard et qui remettent les choses sur l'établi, j'ai envie de dire, régulièrement pour améliorer les processus, pour améliorer la qualité. Et c'est vrai dans tous les domaines. Industriels. Et ce sont, voilà.
Ouais. Ils sont beaucoup plus riches.
Ils sont.
Les familles, c'est pas pour rien, vous êtes en Allemagne, hein.
Oui, non, c'est exact.
Vous faites de la gestion privée, donc ils sont beaucoup plus riches.
Les entrepreneurs allemands sont beaucoup plus nombreux que les Français et ont
ils sont beaucoup plus riches.
Ils sont beaucoup plus riches.
Oui, d'accord.
Je le confirme. Ils ont beaucoup épargné. Et puis, vous savez, il y a des chiffres qui sont très simples. Vous avez un excédent. Les dernières années, entre 250 et 300 milliards d'euros. Excédent commercial. Ces 250 à 300 milliards, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc, le pays s'enrichit globalement. Et ça se transforme en épargne pour les caisses de retraite, en épargne pour les compagnies d'assurance, en épargne pour les dividendes, en épargne pour les retraites. Mm-hmm. Et ça, on le voit chez nos clients, à la fois privé et institutionnel. C'est une chose certaine. Alors, est-ce que les Allemands sont plus riches en patrimoine que les autres? On le dit un petit peu moins parce qu'ils sont moins exposés à l'immobilier. Il est culturellement moins évident pour un jeune ménage en Allemagne de s'acheter sa résidence principale, alors que c'est le cas en France.
Oui, mais en même temps, on voit qu'en Allemagne, l'immobilier coûte beaucoup moins cher aussi. Donc,
oui,
c'est 30% moins cher, en tout cas, c'est le chiffre qu'on dit. Mais il y a un système de location peut-être plus facile.
Parce que, tout simplement, il y a le Schulden, Schuldisch, on est coupable de s'endetter. On n'aime pas être endetté en Allemagne.
Schulden, Schuldisch, oui.
Voilà. Donc les Schulden, la dette, Schuldisch, coupable.
Voilà, comme ça au moins. Oui, c'est vrai que c'est très lié. Oui. D'où le problème que on explique le fait que l'Allemagne soit si rigoureuse dans sa gestion budgétaire, oui. C'est justement la proximité entre ces deux mots. Oui. Est-ce que le marché des capitaux pour vous au niveau européen, ça serait une bénédiction? Parce que j'imagine que pour vous, c'est compliqué aujourd'hui.
Le marché, il faut améliorer la réglementation, améliorer la possibilité des banques de se refinancer sur les marchés. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut surtout faire évoluer les ratios réglementaires des compagnies d'assurance et des caisses de retraite pour les autoriser à investir plus en actions.
Ouais.
Ça, c'est un élément extrêmement important parce que l'investissement en actions n'est pas suffisant. On le dit depuis 10, 20, 30 ans et c'est toujours le cas. Et avec des taux d'intérêt qui sont nuls, Il est extrêmement difficile pour des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, de relever le défi de la rentabilité sans pouvoir être plus investi en actions.
Pour vous, le Brexit, c'est une chance et une opportunité ou pas, Philippe Audot ?
Alors, je pense que globalement, en tant que citoyen européen, citoyen, etc., je trouve que c'est un drame.
Non, patron de banque, oui.
Et je pense que non, je le vois pas comme quelque chose qui change. Je le vois donc une opportunité parce qu'on est.
Opportunité pour faire venir des gens, des talents, vous y
oui.
croyez ?
Je pense que d'abord il est intéressant d'aller pour nous installer à Londres, en tout cas d'aller voir des talents à Londres et pourquoi pas de faire venir des talents à Paris et à Francfort.
Et vous avez 30 secondes, qui vous voyez remporter la bataille, Francfort ou Paris en termes de place financière?
Ça n'a rien à voir, les deux places sont totalement différentes et je pense que ce que je dis c'est qu'elles ont intérêt à travailler le maximum ensemble pour attirer les meilleurs.
Merci beaucoup et puis bravo pour votre merci prix beaucoup. Franco-allemand. Schuldisch, voilà. Ouais, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Philippe Audot, le patron de la banque Audot BHF. Voilà, dans un instant, on va partir aux États-Unis, même ça sera ici, puisque je reçois le patron de Sony Pictures pour la France, Stéphane Huard. On reviendra sur Brad Pitt qui a obtenu le deuxième rôle, en l'occurrence, du film qui est distribué justement par Sony Pictures. On revient ça tout de suite dans juste après une page de plus.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Et on va parler des Oscars. Peut-être vous avez suivi la cérémonie qui a eu donc lieu hier soir à Los Angeles. Stéphane Huard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de Sony Pictures pour la France. J'imagine que vous avez suivi, puisque vous êtes le distributeur du film de Once Upon a Time. Où il y a eu donc Brad Pitt, où il y avait trois Oscars, vous avez remporté trois Oscars, dont un seul est important, c'est celui de Brad Pitt, le meilleur second rôle. Donc vous êtes content, j'imagine, aujourd'hui, ce matin.
Oui, on est toujours satisfait.
Les yeux un peu fatigués.
On est toujours satisfait. Il y avait 20 nominations pour le studio Sony, donc c'était quand même une très grosse année pour nous. Plusieurs films, dont deux films avec des réalisatrices, donc aussi c'était quelque chose d'important pour le groupe Sony. Mais effectivement, Once Upon a Time avec Brad Pitt, c'est une jolie reconnaissance et c'est toujours formidable de voir un de nos comédiens qui est reconnu à ce point-là.
Oui. Ce film, il vous a rapporté combien pour l'instant, vous savez ?
Écoutez, j'ai pas les chiffres à vous donner en tête tout de suite. En France, c'est près de 3 millions d'entrées. Le film est allé au Festival de Cannes et il a très très bien marché cet été. Actuellement, donc, il n'est plus en exploitation cinéma, mais on est sur d'autres types d'utilisation.
Comme c'est pour ça que je vous demandais un peu le bilan, parce que vous auriez pu le connaître. Et il faut signaler que le film est nommé dans la catégorie film étranger pour les Césars, cette fois-ci.
Exactement. Ouais. Donc, fin février, nous serons là également pour être en compétition avec Parasite à nouveau, qui est aussi dans les films étrangers, donc ça va être intéressant.
Oui, ce serait la version française des Oscars, le duel. Toute cette polémique là autour de Polanski, mais on voit bien aussi, on l'a vu pour les Oscars, du phénomène MeToo, qui est un vrai phénomène. Comment est-ce que quand on est le patron de Sony Pictures France ou même Sony Pictures tout court, on revit sa stratégie.
Non, notre vision à nous, c'est effectivement que probablement ces institutions doivent s'adapter à la société actuelle. Je laisse à monsieur Terzian l'adaptation de la structure pour les Césars. Il a annoncé hier qu'il allait revoir un petit peu la composition des votants, qui est à 35% féminin uniquement, donc probablement nécessité de prendre les choses en main.
Oui, mais donc pour vous, ça change rien. Vous serez là
cette
cérémonie.
Nous serons présents pour Quentin Tarantino qui ne pourra pas être là ce soir-là, effectivement.
Oui, d'accord. Sony Pictures, vos blockbusters, ça a été quoi en 2019?
Alors, on a eu la chance d'avoir un film français qui a très bien marché, qui s'appelait Nicky Larson, qui était en début d'année. Ensuite, on a eu le film Spider-Man Far From Home, qui est un film qui était très attendu, qui a fait plus de 3 millions d'entrées. Évidemment, le film de Quentin Tarantino au mois d'août. Et puis, on a terminé l'année avec Jumanji. Jumanji, ça fait partie de ces grandes franchises du studio qui sont remis au goût du jour et qui a dépassé aussi les 3 millions d'entrées. Donc, pour nous, une très belle année.
Et puis, on va rester. Les films pour 2020, qu'est-ce qu'on va voir?
Bon, on continue en 2020. Beaucoup de franchises à nouveau. Vous savez, les gens aiment beaucoup les franchises. Ça fait partie de ces films qui sont familiaux et qui, en même temps, rassemblent un grand public. Donc, on va remettre au goût du jour Ghostbusters, par exemple, et SOS Phantom au mois d'août. Et puis, on continue dans l'univers de Spider-Man, puisque c'est avec Disney, Sony est le deuxième studio à avoir des films Marvel. Vous savez, les films Marvel sont très attendus du grand public. Et donc, on va remettre au goût du jour un nouveau personnage qui s'appelle Morbius au mois d'août également. Donc, un été très chargé pour nous.
Ça veut dire quoi? C'est le phénomène de série quelque part, enfin, série entre guillemets, qui s'étend au cinéma. Vous voyez le côté récurrent?
Oui, il y a un côté, le spectateur, surtout quand il est occasionnel, il a un peu besoin de savoir où il va mettre le pied. Hein, c'est quand même un engagement fort d'aller au cinéma, il a besoin de faire plaisir autour de lui. Donc souvent des films dont on connaît un petit peu les éléments, avant c'était les grands acteurs, hein, Louis de Funès, un Belmondo était la référence, maintenant c'est un petit peu les titres, et ces titres qu'on a vus dans le passé, qu'on a beaucoup aimé, qu'on a envie de revoir ou de découvrir.
Ouais. Il se passe beaucoup de choses dans votre secteur, avec l'émergence de Netflix. Netflix donc, qui a été... Pas consacré, mais enfin quand même, qui avait je ne sais plus combien de nominations.
Il y avait c'est celui qui a le plus de nominations.
Plus de nominations, même s'ils ont quasiment rien.
Finalement, assez peu de.
Oui, mais il y a Netflix, il y a les plateformes, il y a la Disney. Comment est-ce que c'est un univers qui évolue énormément? Est-ce que vous pourriez nous dire, nous dresser peut-être les grandes lignes en deux secondes, Stéphane Huard?
Oui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vous savez, les œuvres font d'abord un circuit par le cinéma, puis après aller en VOD, DVD, puis en télévision. Aujourd'hui, certains décident d'aller directement aux spectateurs par des plateformes qui sont. Disney va ouvrir bientôt Disney Plus en France au mois de mars. Donc effectivement, c'est une nouvelle façon de proposer des œuvres audiovisuelles. Donc on s'en félicite, la production se développe et continue. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le cinéma dont moi je m'occupais particulièrement n'est pas forcément impacté par ces arrivées de nouvelles propositions. La télévision est arrivée à une époque dans les années 60, puis le DVD, VOD, la salle de cinéma ne s'est jamais aussi bien portée en France. Donc c'est un signe que les gens peuvent voir des choses intéressantes à la maison, mais aussi continuer à aller au cinéma.
Oui, mais en même temps, on voit bien qu'on est à Netflix, je crois qu'ils ont plus de 20 milliards de production, d'argent à mettre sur la table. Donc c'est quand même des défis absolument gigantesques pour les maisons de production classiques.
Vous avez raison. Est-ce qu'on constate également...
C'est un peu là où ça se passe. Hein,
c'est un peu une concurrence pour avoir les talents, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, bien sûr.
C'est qu'on voit
des professionnels
quitter des studios pour aller aider ces plateformes, mais on voit aussi des talents qui vont aller à droite, à gauche. C'est pour ça que les Oscars sont intéressants, parce que quand un studio remporte des Oscars, il appelle des talents à venir nous rejoindre. Et quand vous avez un talent comme Greta Gerwig, par exemple, vous savez, Little Woman, ce film Les Feuilles de Dr. March, qui est nommé 5 fois pour Sony, effectivement, c'est dire à ces jeunes talents, venez dans les studios, nous avons aussi la possibilité
de proposer. Oui, alors, pardon, je vais vous contredire, mais vous regardez Netflix, il y a eu des nominations, mais qui n'avaient pas du tout été consacrées. Netflix cartonne quand même, a fait venir Martin Scorsese, a fait venir Robert De Niro, enfin, a fait venir tout le monde.
Tout à fait. Non, mais c'est effectivement une recherche de chacun va avoir les meilleurs talents et les meilleures histoires, et c'est un débat qui continue. On était auparavant 6 majors, il y en a maintenant plus que 5. Vous savez que Fox a été racheté par Disney. Donc l'organisation se concentre pour les majors, mais aussi avec des nouveaux entrants, les plateformes. Donc,
est-ce que justement cette concentration dans les majors, elle va se poursuivre, vous pensez? Avec l'émergence, enfin pas l'émergence, c'est plus que l'émergence, mais avec le poids croissant de ces plateformes.
On rentre vraisemblablement dans une période où la concentration risque de se poursuivre. On a vu en France actuellement quelques distributeurs disparaître également. Marsfilm est en situation de redressement judiciaire. Des gens comme Europacorp sont moins présents. Donc on voit effectivement une concentration à tous les niveaux. C'est une évolution assez naturelle, je dirais, du secteur.
Sony Pictures France, ça représente quoi par rapport à Sony Pictures Monde ?
Alors, on est à peu près 10% de l'activité internationale de Sony Pictures, donc c'est un pays important. La France, en termes de cinéma, c'est aujourd'hui la cinquième puissance mondiale. Hein. Vous avez les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Angleterre et la France, donc on a un rôle important à jouer, parce qu'on a aussi une production locale très puissante.
Qu'est-ce que vous avez comme production locale?
Alors nous travaillons sur des films français chaque année. Bientôt, on va sortir un film qui s'appelle Une sirène à Paris, de Mathias Malzieu, le 11 mars. Donc on s'attache à être présent auprès du cinéma français, qui est un cinéma de qualité.
Parce que c'est un peu, j'entendais quelqu'un ce matin dire, mais vous regardez le budget du CNC, du Centre National du Cinéma, par rapport au budget de Netflix, on voit bien que ça n'a rien à voir. Quoi.
Non.
Donc ça va remettre en cause peut-être le modèle français du cinéma.
Effectivement, le modèle français est un modèle qu'il faut toucher avec beaucoup de précautions. Hein. On est encore l'un des rares cinémas européens à être très dynamique. Et probablement grâce à l'organisation du financement du cinéma en France, les 700 millions d'euros environ dont possède le CNC est là pour activer, promouvoir, protéger le cinéma et les activités audiovisuelles.
Oui, c'est ça, c'est le côté un peu pub. Mais dans la réalité, on voit bien la difficulté que vont rencontrer sans doute les cinéastes français.
Oui, ils vont devoir évoluer, effectivement, mais aujourd'hui, ils ont quand même la possibilité de produire beaucoup de films. Vous savez, il y a plus de 300 films qui sont produits dans les cinémas en France par des Français. C'est quand même une production très abondante et qui permet justement d'avoir jusqu'à 5 nominations aux Oscars, donc une proposition qui est internationalement reconnue aussi.
Et vous, Sony Pictures, vous produisez combien de films français?
Nous, on accompagne 2 à 3 films français par an uniquement. Hein. On est quand même un acteur mineur, mais ça reste partie de la dynamique de ce territoire d'être présent sur les films français, effectivement.
Et est-ce que c'est un modèle qui est répliqué, je sais pas, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, ou c'est
oui,
vraiment
oui,
parce que là, c'est vrai que le cinéma français existe, là, il y a des acteurs français qui réussissent à Hollywood.
Oui.
Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on vous demande de soutenir des cinémas français?
Oui, on essaie de trouver des talents, peut-être, qui peuvent permettre de faire des films qui vont marcher en France, mais aussi à l'étranger, peut-être d'avoir des droits de remake. On est toujours à l'intéresser par des nouvelles histoires, et la France est très prolifique de ce côté-là. Et effectivement, Sony Pictures accompagne des films locaux en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Russie, en Inde. Donc, c'est vraiment une activité nécessaire. Aujourd'hui, la production locale est très dynamique dans le monde entier et plus dynamique que la production des majors actuellement.
Oui, d'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous voyez la fin du film bientôt ou pas?
Non, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que... Non,
je sais pas, la question peut se poser.
Non, les formats peuvent varier.
Ouais.
Et je pense qu'effectivement, la plateforme est très adaptée à un format long, un format de feuilleton, un format de série. Le cinéma est formaté pour la salle de cinéma, le film de cinéma. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un lieu, c'est une destination, le cinéma. C'est une destination sociale. On y va. C'est la première destination des jeunes. Quand ils quittent la maison, quand ils sortent avec des copains, ils vont au cinéma. On a en France un réseau particulièrement fourni. On a plus de 6000 écrans. C'est le quatrième pays au monde en termes de densité de cinéma. Et donc, on peut être très fier de la modernisation de nos salles et du fait que les gens continuent à y aller.
Les scénarios, le fait d'être français, est-ce que maintenant, aujourd'hui, c'est un handicap ou pas?
Ce qui est le handicap, c'est la langue.
Oui. Bah
c'est-à-dire
oui,
qu'effectivement, vous savez qu'il y a beaucoup de pays, dont les Américains, qui voient très peu de films sous-titrés. Et d'ailleurs, on peut se féliciter des résultats de Parasite. Peut-être que ça va ouvrir une nouvelle cinéphilie.
Le coréen, donc il y a eu l'Oscar.
Il y a eu l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation. Et donc ça, c'est vraiment un tournant quelque part. Et on peut se féliciter. Les plateformes jouent un rôle là-dessus. Des gens découvrent chez eux des films sous-titrés qu'ils ne voyaient pas auparavant parce qu'ils n'allaient pas au cinéma les voir. Donc nous, on a une culture à la fois de version sous-titrée et de version française. Mais beaucoup de pays ont soit l'un, soit l'autre. Donc effectivement, vous parliez du handicap éventuel. La langue est une limite. Et c'est pour ça que même certains réalisateurs vont tourner en anglais pour pouvoir exporter mieux.
Oui. Les séries chez Sony Pictures, vous en produisez?
Oui, tout à fait. House of Cards, The Crown,
ah oui,
qui sont quand même des séries.
Je savais pas qu'elles étaient distribuées par vous, pardon.
En fait, ça a été produit et distribué sur Netflix. Effectivement, nous avons ce rôle de production de films et de séries télé aux États-Unis, même de production d'émissions en France, hein, puisque ça fait partie de notre activité. Nous sommes producteurs et distributeurs à tous les niveaux.
C'est quoi les chiffres de House of Cards?
House of Cards, vous savez, Netflix ne donne pas ses chiffres.
Vous les avez. Non, j'imagine que vous voulez.
Non, je peux pas. Je les connais pas. Effectivement, nous, on connaît bien les chiffres des entrées cinéma parce qu'elles sont vraiment publiques, alors que les visionnages sur les plateformes sont plus secrets.
Oui, mais c'est quelque chose de d'énorme. Quoi.
Oui, c'est des phénomènes très forts, et puis des diffusions et des rediffusions après sur d'autres formats, c'est toujours intéressant.
Vous pouvez produire, vous produisez, mais les séries françaises, est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'elles aient un succès? Comme les séries américaines.
Oui, regardez l'exemple espagnol de Casa de Papel.
Oui. Mais c'est l'espagnol, voilà. C'est
production espagnole à l'origine, première diffusion sur la télé espagnole en priorité, puis sur Netflix, donc une volonté de développement international, et après une production accompagnée par Netflix pour la deuxième saison. Donc effectivement, les séries peuvent voyager.
Oui. Le Stéphane Huard, en conclusion, le grand enjeu pour Sony Pictures, c'est quoi là?
Le grand enjeu, c'est de continuer à produire des films que les spectateurs aiment, parce qu'effectivement, c'est facile à dire,
mais c'est plus dur à faire. Oui, c'est voilà.
Et avoir une bonne année comme on a eu cette année. On a été quatrième du marché français, c'est toujours une performance pour nous.
Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que vous avez eu deux Oscars hier à cette cérémonie. En attendant, peut-être pour les Césars.
Peut-être pour les Césars.
Merci beaucoup. Stéphane Huard, le patron de Sony Pictures pour la France, était notre invité dans un instant. C'est la ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédéric Vidal, qui sera notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Frédéric Vidal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Loi, programmation pluriannuelle sur la recherche. Augmentation des salaires des enseignants, des chercheurs, on parle de tout ça dans un instant, et puis bien sûr du coronavirus. Pour l'instant, rappel des titres, Aurélie Planex.
Le quatrième trimestre n'aura été qu'un trou d'air pour l'économie française. La Banque de France anticipe un rebond de la croissance au premier trimestre, plus 0,3%. La Banque de France estime que l'industrie va retrouver son rythme de croisière dès ce mois-ci. Elle a déjà constaté une accélération de l'activité dans les services et le bâtiment en janvier. La CDU va devoir se chercher un nouveau leader. Selon Reuters, Anne-Grethe Kramp décembre, Karen Bauer ne sera pas candidate au poste de chancelière lors des élections de 2021. AKK a été considérée comme la dauphine d'Angela Merkel, mais elle peine toujours à asseoir son autorité sur son parti. Covéa s'est trouvé une nouvelle cible dans le domaine de la réassurance après l'échec de sa tentative de rachat de Score. La maison mère de MAF et MMA annonce être entrée en négociation exclusive avec la holding financière de la famille Agnelli, qui détient le réassureur Partner Re. L'opération pourrait atteindre les 9 milliards d'euros. Air France KLM enregistre une hausse de son trafic passager de 2,2% en janvier. La compagnie estime que l'impact du coronavirus a été limité le mois dernier. Air France KLM, qui a interrompu ses vols vers la Chine la semaine dernière, donnera une première estimation financière de l'impact sur les prochains mois lors de la présentation de ses résultats annuels la semaine prochaine. En Chine, l'épidémie provoque, elle, l'envolée des prix alimentaires. L'inflation s'établit à 5,4% en janvier sur un an. C'est son plus haut depuis 2011. On termine avec un coup d'œil sur les marchés. Le CAC 40 est en léger repli, moins 0,2%. 6014 points du côté des devises. L'euro dollar 1,0949. Midi 32.
Merci Aurélie. À suivre, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche. On parlera de sa loi de programmation justement sur les chercheurs et puis aussi ministre de l'Innovation. On se retrouve dans un instant.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Frédéric Vidal. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Frédéric Vidal, merci d'être avec nous ici. Vous avez lancé votre loi de programmation pluriannuelle sur la recherche, avec des conséquences que ça peut avoir. Évidemment, dès qu'on touche à la recherche en France, c'est évidemment un sujet extrêmement sensible. Vous publiez une tribune aujourd'hui chez nos confrères du Monde pour dire, à la limite, j'en ai marre des fake news. Voilà exactement en quoi consiste ma loi. Et surtout, vous avez raison de dire que ça montre bien la défiance qui existe aujourd'hui entre le pouvoir académique et le pouvoir politique. D'abord, peut-être deux questions d'actualité, si vous le permettez. Sur le coronavirus, le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé, vient de dire qu'il y avait des risques de contamination avec des gens qui n'avaient pas voyagé en Chine. Donc ça veut dire que l'épidémie, elle n'est pas du tout sous contrôle.
C'est justement le rôle de l'OMS d'être capable de savoir à partir de quand on passe d'une épidémie à une pandémie. En réalité, il y a plusieurs étapes. Il y a les contaminations par des personnes dont on sait qu'elles étaient au départ dans le foyer infectieux. Des contaminations par des personnes dont on sait qu'elles ont été en contact.
Et puis ensuite,
des contaminations intra-personnes dont on n'est pas capable en fait de lier la contamination à un lien quelconque avec le foyer épidémique. Donc c'est cette surveillance qui fait que...
Donc cette déclaration, il y a quelques instants, du directeur général de la santé, en disant que l'expansion du nouveau coronavirus hors de Chine pourrait s'accroître avec la transmission de la maladie par des personnes n'ayant jamais voyagé dans ce pays. C'est quand même inquiétant, ça.
C'est le principe d'une pandémie.
On est en train de basculer à la pandémie.
On n'arrête pas les virus. Donc, évidemment, c'est sur la base des observations qui seront faites que l'OMS déclarera que nous sommes effectivement en pandémie mondiale, avec, là encore, de nouveaux dispositifs qui pourront être mis en place. Mais la façon dont nous suivons cela, enfin, dont la ministre des Solidarités et de la Santé en priorité, mais évidemment,
l'Institut Pasteur.
Nous suivons cela, il y a une réunion ce soir en fin d'après-midi, justement, pour mettre en place et coordonner toutes les actions de recherche en utilisant Reacting, qui est notre outil de coordination entre l'ensemble des laboratoires français.
Ouais. Et là, vous pensez que... Est-ce qu'on a identifié ce qui se passait ou pas ?
Alors, on connaît, grâce au travail des chercheurs à l'Institut Pasteur, la séquence maintenant du virus. Ça nous permet, d'une part, de l'étudier, de regarder s'il existe des molécules qui peuvent réduire sa prolifération, son activité, et puis qui nous permet aussi de surveiller d'éventuelles apparitions de mutations. Donc, c'est évidemment essentiel et il faut poursuivre là-dessus.
Un vaccin, c'est pour quand ? Parce qu'on dit 3 mois, mais en 3 mois, comme vous dites...
La question d'un vaccin est toujours une question qui est très très longue, puisqu'il faut d'une part le mettre en place, mais ensuite il faut être en capacité de le tester. Traditionnellement, un vaccin c'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc évidemment, on travaille sur ce sujet de vaccin, mais on regarde aussi d'autres pistes.
Donc en fait, il n'y a aucun moyen, comment est-ce qu'on pourrait endiguer cette pandémie, si pandémie il y a ?
bien, il y a évidemment toutes les précautions qui sont rappelées en permanence hein, et qui en fait permettent de limiter l'expansion du virus. Et puis il y a évidemment le travail de la recherche, comme je vous le disais, pour trouver des molécules qui peuvent réduire la transmission ou réduire l'infectiosité du virus.
Est-ce que les Chinois travaillent avec vous, avec nous, les Français? Parce qu'on sait qu'on est très en pointe. Hein.
Bien sûr, c'est une coordination internationale qui s'est mise en place dans le monde de la recherche.
Ouais, pour une fois, ils ouvrent leurs portes.
Les sujets de recherche en général, la coopération est toujours internationale et encore plus quand il s'agit de santé.
Toute dernière question, mais ça faisait buzz la semaine dernière. Et comme là, vous êtes sur la chaîne de l'économie, Frédéric Vidal, la présidente du jury de l'ENA, Isabelle Marais et son père, qui, elle, est passée par le privé, a rendu son rapport au Premier ministre dans lequel elle souligne, je cite, « la faible culture industrielle et microéconomique des candidats ». Et même, elle va plus loin en disant que la méconnaissance par les candidats de la vie des entreprises, de ce qu'est un modèle économique, la faible culture industrielle et microéconomique, ben, ça montre que c'est une source de grand étonnement pour elle. Ministre de l'Enseignement supérieur, c'est pour ça que je m'adresse à vous, est-ce que ce n'est pas un gros problème, cette inculture économique des Français?
Bien sûr, nous avons beaucoup travaillé avec Isabelle Marais-Saint-Père, qui était notamment dans les groupes de travail sur la loi de programmation de la recherche. On a besoin justement d'inculquer cette connaissance du monde de l'entreprise et cette connaissance de l'entrepreneuriat. C'est tout l'objet du programme Pépite qui est soutenu, c'est tout l'objet de la formation. On a formé 120 000 jeunes à l'entrepreneuriat sur l'année 2018, le statut d'étudiant entrepreneur, les prix que j'ai pu remettre la semaine dernière, et à partir du 1er mars, une grande campagne de sensibilisation dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur à la connaissance de l'entreprise et à l'entrepreneuriat.
Oui, alors ça c'est, nous on va applaudir, et en même temps on voit bien que du côté des chercheurs, on dit que c'est la recherche du culte de l'excellence, du débouché à tout prix. Vous leur dites quoi? Mais qui se trompe un peu, enfin qui retarde un peu, c'est ça?
Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que nous avons aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui souhaitent accéder à l'enseignement supérieur, et c'est très bien. Et le rôle de l'enseignement supérieur, c'est aussi de les accompagner vers l'emploi. Donc évidemment, l'emploi dans le monde académique, et c'est très important pour conserver justement notre capacité à rayonner en termes de recherche, mais l'emploi au sens large, c'est-à-dire soutenir aussi les jeunes qui veulent créer leur entreprise, à partir de leur sujet de thèse parfois. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau prix qui s'adresse spécifiquement aux doctorants et aux jeunes docteurs qui créent leur start-up en lien avec la BPI, avec un accompagnement derrière. Je crois que c'est très important de diversifier l'ensemble des débouchés pour ces jeunes qui s'engagent dans les études supérieures.
Alors pourquoi cette loi, pourquoi cette tribune? Parce que c'est vrai qu'il suffit de taper votre nom ou taper chercheur et on voit que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Google, on voit apparaître des tas de choses quoi, totalement contradictoires en disant que ça s'adresse qu'à 1% de la population des chercheurs, etc., etc.
Alors, cette loi, c'est une loi de programmation dans le sens où elle va prévoir les budgets et l'investissement que souhaite faire l'État dans les années à venir sur la recherche. C'est la troisième loi de ce type, hein, après la loi de programmation pour les armées, celle pour la justice. Ce sera la troisième loi de programmation du quinquennat. C'est un réinvestissement massif dans la recherche, parce que c'est la recherche qui prépare l'avenir d'un pays, et c'est évidemment essentiel. À partir du moment où nous avons...
Ça veut dire quoi, en fait, pluriannuel? Enfin, moi, je sais, mais peut-être qu'on peut le rappeler...
C'est-à-dire que l'État, au travers de cette loi, va prévoir, année après année, l'augmentation du budget de la recherche en France sur les 7 à 10 prochaines années. C'est un engagement fort, un engagement par la loi, et ça permet de donner de la visibilité dans le temps. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre lorsqu'il m'a demandé de porter cette loi. Il a dit, les chercheurs ont besoin de temps, de moyens et de visibilité. La visibilité dans le temps, elle sera donnée par cette loi.
On sera à quand à 3% du PIB sur la recherche?
L'objectif, c'est qu'on y soit justement grâce à cette loi.
Oui, mais quand la fin?
Le c'est une loi de programmation qui est prévue sur, a priori, 7 ans de programmation. C'est-à-dire que pour la première fois, on sortira de l'incantatoire. Hein, vous le savez aussi bien que moi. Nous étions censés être à 3% du PIB en 2010. Oui. Mais voilà, entre nous souhaitons...
Et aujourd'hui, on est à combien, là, fin 2019 ?
On est à peine à un peu plus de 2,25. Donc, on est encore très loin du compte. Et c'est pour cela que, sur la part du PIB qui est consacrée à la recherche, traditionnellement, c'est un tiers qui vient des financements publics, deux tiers des financements privés. Et donc, ça veut dire que nous devons atteindre 1% de PIB en investissement dans la recherche publique.
Oui, quand on connaît l'état de nos finances publiques, on dit que c'est pas évident. Hein.
C'est un vrai investissement. On prépare l'avenir comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas être à la merci de ruptures technologiques ou d'innovations qui viendraient d'autres pays. Et puis, c'est aussi très important si l'on veut porter nos valeurs. Et c'est pour ça que c'est très important que toutes les sciences soient impliquées.
Alors, toutes les sciences, justement, parce que là, on avait le sentiment que c'était plus dans toutes les sciences qui soient proches de cette révolution numérique. Donc, est-ce que c'est toutes les sciences, mais est-ce que, du coup, vous vous dispersez pas ?
Non,
on pourrait dire sur l'intelligence artificielle, par exemple, sur l'IA, il faut mettre le paquet dessus. Lorsqu'on voit les milliards qui sont dépensés pas dans le privé, par les États-Unis ou les Chinois, il faudrait peut-être y aller.
Oui, mais regardez, sur l'intelligence artificielle, c'est exactement ce que nous avons fait, avec effectivement un financement très fort en soutien à la recherche. Mais quand je dis vraiment toutes les recherches et toutes les sciences, c'est que nous souhaitons que l'usage de l'intelligence artificielle soit fait au service de nos concitoyens et de la société. C'est une autre façon d'appréhender les choses. Et c'est parce que les citoyens s'emparent ou non d'une technologie que les standards sont créés et que cette technologie, finalement, peut prendre le pas sur d'autres technologies qui respectent peut-être un peu moins nos valeurs. C'est pour ça que le plan IA s'intitule IA pour l'humain, pour l'humanité, et qu'évidemment, les sciences humaines et les sciences sociales y ont toute leur part.
Alors maintenant, justement, la question, et c'était un des points importants de votre loi et proposition, Frédéric Vidal, c'est le salaire des chercheurs, et notamment des jeunes chercheurs, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est ça doit être de 2 à 3 000 euros un chercheur, vous rajoutez 1, 2 zéros lorsque vous allez chez Google, ou lorsque vous allez chez un GAFA. Donc, comment est-ce que vous gérez ça ?
Alors, la question de l'attractivité des métiers de la recherche, en général, pas uniquement des métiers de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, mais en général de tout ce qu'on appelle les métiers de la recherche, c'est un véritable enjeu pour que, effectivement, nous continuions à avoir une recherche publique extrêmement forte. Alors, vous l'avez dit, il y a une question de zéro sur le salaire, et donc, de ce point de vue-là, c'est une revalorisation des salaires, mais c'est pas ça uniquement qui fait l'attractivité de la recherche.
Oui, mais c'est restons aussi... un instant là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous proposez quoi exactement ?
Alors aujourd'hui, nous avons une première étape dès 2021 qui fait que plus aucun jeune chercheur ne sera recruté en dessous de 2 SMIC, ce qui évidemment impacte ensuite sur l'ensemble des carrières, hein, puisqu'on ne va pas évidemment payer moins cher quelqu'un qui aura été recruté cette année par rapport à quelqu'un qui sera recruté l'année prochaine. Et c'est une revalorisation globale de l'ensemble des carrières. Vous savez, quand on est chercheur ou enseignant-chercheur, les gens imaginent qu'on a un métier qui est faire de la recherche. En réalité, on a énormément d'autres choses, beaucoup d'administration, beaucoup de dossiers à remplir. On gère beaucoup de choses qui ne relèvent pas du cœur de métier. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de revaloriser et d'avoir de nouveau des forces en soutien et en support à la recherche.
Oui, mais comment faire pour les attirer, notamment dans les carrières scientifiques, lorsque vous voyez que même après 10 ans, il reste à 2 fois, 3 fois le SMIC. Comment faire pour aller attirer ?
Alors d'abord, il faut qu'on se mette...
Pas céder aux sirènes. Oui.
Il faut qu'on se mette financièrement en capacité de reconnaître toutes les missions et tous les engagements. Et donc ça, c'est un gros impact financier sur les salaires de l'ensemble des métiers de la recherche. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Et puis, il faut aussi que nous soyons capables, dans certains domaines particuliers, vous évoquiez tout à l'heure le domaine de l'informatique, il faut que nous puissions avoir quelque chose d'attractif pour que les chercheurs et les doctorants même terminent leur doctorat. Ce sont une nouvelle façon de penser l'entrée dans les carrières de la recherche, environnée, c'est-à-dire que non seulement le salaire est apporté, mais aussi les moyens de constituer une équipe. Vous savez, quand je discute avec des jeunes qui hésitent justement, la chose qu'ils trouvent essentielle dans une carrière publique, c'est la liberté de pouvoir mener leur recherche comme ils l'entendent. Et la deuxième chose qu'ils trouvent essentielle, c'est l'environnement et l'émulation scientifique d'être dans une université ou dans un laboratoire de recherche où ils peuvent côtoyer d'autres chercheurs. Mais par contre, évidemment, ils ne sont pas prêts à sacrifier complètement leurs revenus. Donc il faut que les revenus de la recherche publique permettent aux jeunes de continuer à porter ces valeurs d'interdisciplinarité et cette capacité à réfléchir de façon libre en recherche.
Il y a trop le CNRS, mais il y a plein de choses. Est-ce qu'il n'y a pas trop de filières? Est-ce qu'il n'y a pas trop de possibilités? Justement, vous disiez, un chercheur qui peut chercher sur ce qu'il veut. J'ai envie de dire, est-ce que c'est aujourd'hui, c'est d'actualité encore, voyez? Est-ce qu'il ne faut pas justement se dire, voilà, la France, il faut qu'il y ait un plan innovation qui va avoir lieu. Il faudrait que la France, sur la médecine, et voilà, il faudrait peut-être limiter le nombre de recherches possibles.
Alors, je crois que c'est une erreur de penser comme cela, parce que la recherche académique a pour objet de produire de la connaissance. Et c'est ensuite à partir de cette connaissance que l'on peut faire de l'innovation. Mais on est incapable de dire a priori quelle connaissance va permettre de l'innovation. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on a un très gros travail qui est mené dans les cancers pédiatriques et dans les recherches sur la façon dont on peut mieux prendre en charge les cancers pédiatriques de l'enfant. Eh bien, il est probable qu'une des solutions de prise en charge de ces cancers vienne de la physique des lasers. A priori, on n'aurait pas pensé que financer des recherches en physique des lasers puissent un jour donner des solutions pour traiter les cancers pédiatriques. Donc il faut permettre à toutes les idées d'émerger et ensuite il faut être capable d'organiser la façon dont ces connaissances produites peuvent être regroupées pour répondre à des sujets complexes. Et ça, c'est le début de la chaîne de l'innovation.
Quand on regarde les chercheurs, souvent, nous, alors on voit en économie, mais aussi, vous avez raison, en médecine, voire beaucoup aussi sur tout ce qui concerne le secteur de l'écologie. En fait, les jeunes chercheurs, ils font leurs études supérieures en France, passent leur doctorat en France, puis après, ils sont repérés par Harvard, par Stanford, par les grandes universités américaines, et de plus en plus, on voit qu'ils les prennent, mais une fois qu'ils sont déjà formés, comme ça, ils aspirent à la fois à la formation française et puis le jeune chercheur.
La formation française est reconnue internationalement. Elle est vraiment excellente. Et c'est tout ça que nous travaillons quand nous disons que nous voulons redonner de l'attractivité au métier de la recherche. C'est évidemment prendre en compte cet équilibre. Qu'est-ce que trouvent ces jeunes à l'international?
Des conditions de travail incroyables, notamment à Stanford, pas que c'est dingue.
Alors, ils trouvent des conditions de travail incroyables, mais néanmoins, puisqu'on parle de Stanford, je peux vous en parler, puisque j'y ai des collègues. La première chose qu'ils ont à faire pour démarrer l'année, c'est trouver leur salaire et le salaire de toutes leurs équipes. Ce que nous avons en France, c'est cette capacité à avoir des chercheurs qui sont stables dans le temps, en termes de salaire. Et ça, c'est évidemment un atout très important. C'est pour ça que, dans le même temps, nous sommes toujours capables, si l'on regarde les concours du CNRS, d'avoir 30% de candidatures venant de l'international. Mais aujourd'hui, les salaires sont devenus vraiment trop faibles pour que l'on puisse maintenir cet équilibre entre un salaire décent qui permet aux gens de vivre et cette liberté académique qu'offre la France.
La fuite de cerveau, vous l'estimez à combien ?
Oh, c'est très difficile d'estimer la fuite de cerveau.
Non, mais je sais pas, vous en avez eu combien? Nous, on peut vous dire, on en connaît, alors c'est peu, mais en économie, il y en a une dizaine, une quinzaine. C'est déjà beaucoup, parce que voilà, c'est une sphère plus petite.
Alors, le monde de la recherche, c'est un monde qui, par définition, est international. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème que des jeunes puissent avoir envie d'avoir une expérience à l'international.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ce qui est important, c'est qu'ils aient ensuite envie de revenir. Ouais. Et c'est vraiment à ça que nous sommes en train de travailler.
Oui, et comment les faire revenir, alors?
Comment les faire revenir? En leur offrant un environnement qui leur permet d'envisager avec sérénité leur carrière, qui leur permet aussi d'avoir un salaire qui leur permet de vivre. Aujourd'hui, lorsque vous êtes recruté à 1,4 fois le SMIC dans un laboratoire d'une grande métropole, eh bien votre premier problème, c'est trouver à vous loger. Et ça, c'est juste plus possible.
Ceux qui disent par rapport à votre, votre loi de programmation pluriannuelle, qui est, je veux dire, qui est ambitieuse, hein, mais en même temps, c'est une concurrence exacerbée parce qu'il faut trouver, il faut publier, il faut, c'est un peu la, la filière de l'excellence. Qu'est-ce qu'on fait de gens qui ne sont pas des chercheurs, qui ne sont pas dans l'excellence?
Alors, je crois qu'il y, y a toujours un sujet avec ce problème d'excellence. Moi, oui, il ne me pose aucun problème. Il ne me pose aucun problème pour plusieurs raisons. D'abord, le monde de la recherche, par définition, est un monde qui allie coopération et compétition. Bien sûr que chaque chercheur veut être le premier à évoquer une idée, un concept ou à publier dans une revue. Et ça, évidemment, c'est très important. Ça anime même le chercheur, ce côté de compétition. Mais c'est aussi un milieu qui est très coopératif. On en parlait au début de l'émission sur le coronavirus. Tout le monde essaye de porter des solutions au travers de la recherche. Et là, on est dans une coopération, pas dans une compétition. Donc, dire que le système de la recherche est compétitif, c'est juste dire la vérité, c'est un système compétitif. Dire que l'excellence est quelque chose que l'on a une fois pour toutes dans sa vie, c'est aussi un contresens. On ne peut pas prévoir qui sera prix Nobel ou médaille Fields en 20 ans. Donc, nous devons organiser les conditions pour que l'excellence puisse émerger, être reconnue et permettre de faire rayonner la France. Et si la France rayonne par ses prix Nobel, rayonne par ses médailles Fields, rayonne par ses chercheurs à renommée internationale, c'est toute la recherche qui en bénéficie.
Sur l'enseignement supérieur, mais c'est assez lié, vous allez voir, c'est, Frédéric Vidal, c'est qu'on regarde dans les classements internationaux, classement de Financial Times, classement de la Harvard Business Review. Par exemple, la grande école polytechnique, elle est dans les tréfonds du classement. Elle n'existe pas sur le plan international. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'ENA, c'est une espèce de phénomène de curiosité, mais on se demande à quoi ça sert. Donc, il y a les écoles de management, les MBA, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais vraiment, ce qui fait un peu notre... voilà, peut-être la force de la France, c'était les polytechniciens, les énarques. Ça n'existe pas sur la scène internationale. Il y a de quoi se poser des questions?
Alors, en fait, je crois que ça dépend des sujets, des domaines et des types de classements que l'on regarde.
Ah ben, je pense qu'on l'a tous regardé.
Absolument. Mais ce que nous sommes en train de faire et de porter, c'est justement de faire en sorte que l'ensemble des sites universitaires en France puissent ressembler à ce qui est la norme à l'international, c'est-à-dire une université. Et ça veut dire qu'il faut que les gens travaillent ensemble, ça veut dire qu'il faut qu'on pense des cursus qui soient à la fois des cursus d'ingénieurs et managers.
C'est ça que vous nous dites. Alors là, c'est explosif, Frédéric Vidal.
Mais pas du tout.
Maintenant, je sais bien,
regardez ce qu'a fait l'école polytechnique en devenant l'Institut polytechnique de Paris, en s'associant avec l'ensemble des écoles d'application de polytechnique.
Très difficile et très douloureux.
En travaillant avec des laboratoires de recherche, beaucoup moins douloureux à partir du moment où, au lieu de mettre les boîtes d'abord et de forcer les gens à rentrer dans les boîtes, on leur a dit « portez un projet ambitieux et nous vous aiderons à le porter ».
Oui, donc il faut que ça continue jusqu'au bout.
Absolument,
c'est très important. Il faut que la Polytechnique devienne une université.
Mais Polytechnique se présente aujourd'hui à l'international comme une université.
Ouais. Léna, on en fait quoi?
L'ENA, c'est différent. On n'est pas sur de la formation initiale. Hein. On est sur une formation qui arrive plus tard. Voilà, Frédéric Thirier, il travaille. Évidemment, nous en parlons très souvent. L'idée, c'est que l'on puisse, comme dans toutes les formations d'enseignement supérieur, qu'elles soient formation initiale ou des écoles plus tard, accueillir en réalité toute la diversité de ce qui fait la nation française. Et je crois que c'est ça qui est en train d'être travaillé, c'est une très bonne chose.
Donc ça veut dire que ça va être recentré sur la haute fonction publique.
Avec surtout la possibilité de rentrer à l'ENA, quels que soient les parcours que l'on a eu auparavant, et avec toute la diversité de ces parcours.
Très difficile pour l'instant.
Ambitieux.
Tout début mars, vous avez mentionné tout à l'heure une campagne de communication sur le dispositif entrepreneuriat d'étudiants.
Oui, absolument.
En mars. En quoi ça va consister et surtout, qu'est-ce que vous en espérez?
Alors, moi je crois que c'est essentiel qu'il puisse y avoir pour tous les étudiants une sensibilisation à l'esprit d'entreprendre. Pas forcément parce qu'ils créeront tous leur entreprise ensuite, mais simplement parce que l'esprit d'entreprendre, c'est être capable d'oser quelque chose, c'est être capable de prendre des risques, c'est être capable d'échouer et de rebondir après cet échec. Bref, ce sont des qualités qui sont ensuite utiles quelle que soit la vie professionnelle. Donc, une sensibilisation pour l'ensemble des étudiants, et puis pour ceux qui le souhaitent, un accompagnement particulier avec un statut d'étudiant entrepreneur qui leur permet de remplacer une partie de leurs études théoriques par, j'allais dire, une étude de cas ou un projet de création d'entreprise et les accompagner pour cela. On apprend aussi beaucoup lorsque l'on travaille en mode projet et on a déjà plus de 8200 jeunes qui ont demandé à avoir ce statut d'étudiant entrepreneur. Une fois de plus, pas forcément pour créer leur entreprise, mais pour développer cet engagement qui est lié à l'entrepreneuriat.
Je me souviens de cette phrase en conclusion. C'était un président d'une grande université qui disait « Mais moi, je ne suis pas là pour former des futurs chefs d'entreprise, je suis là pour former des esprits. » Voilà ce que c'est que l'université française. Est-ce Absolument. Qu'il a tort ?
Bah non. Non, mais heureusement.
Vous dites, il doit former à l'entreprise. Alors, c'est pas ici qu'on va trouver ça.
Mais heureusement que les chefs d'entreprise et les futurs chefs d'entreprise ont de l'esprit. En tout cas, je l'espère.
Oui, mais cela dit, est-ce que le
former des esprits, c'est oui. former des esprits. C'est, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas former des esprits
mais
uniquement.
Mais pas uniquement à l'entreprise.
Mais pas uniquement pour le monde académique non plus. Et c'est tout l'objet. Hein, c'est remettre justement la formation des esprits au cœur de l'objectif de l'enseignement supérieur, de tous les esprits, de manière à ce que chacun, selon ses souhaits et ses capacités, contribue à l'essor de notre pays.
Merci beaucoup. On voit en tout cas que ça bouge. Enfin, c'est la déglaciation du mammouth, hein, en l'occurrence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. La ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Frédéric Vidal, était notre invité. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain. Demain matin, 8h15, je recevrai Julien de Normandie, un de vos collègues du gouvernement. On parlera du logement et ensuite, rendez-vous dans l'orage. Bien sûr, bonne journée.